Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG, demain c'est le 1er mai, alors tous ensemble, yep, yep, yep. Depuis le 19 mars que j'attends cette journée de demain, si on pouvait faire encore plus de bruit, si on pouvait être encore plus nombreux, si on pouvait durcir le mouvement, le faire durer dans le temps généralisé, cette grève, il y a tellement à faire, la loi LRU, l'université entreprise, les hôpitaux entreprise, bien d'autres choses encore. Alors, tous ensemble, yep, 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 tous ensemble. Allez, salut Daniel, et on lâche rien, ciao, à demain.
Bonjour Daniel, l'autre là-bas, il veut aller faire son bling-bling sur le plateau des Glières, foulant aux pieds tous les acquis de la résistance. Il manque pas de culot celui-là. Heureusement que Stéphane Hessel et les résistants vont aller faire une contre-manifestation. C'est honnête de savoir.
Et un vaccin anti-chômage, est-ce que ça existe ?
Bonjour, nous sommes mercredi 29 avril 2009. Je suis Catherine Le Guernec, conseillère municipale d'opposition à Levallois-Perret. Je voulais vous dire que depuis ce matin, l'expulsion du café, de ce lieu de vie que nous défendons depuis des mois, chez Théo, a commencé. Donc vous voyez, je suis très émue parce que c'est encore un morceau de vie du lien social. Levallois-Perret qui disparaît. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse.
Hey, salut Daniel, j'ai 19 ans, et je vais recevoir une formation de chaudronnier. Enfin, je vais être taulier, quoi. Et je me demande déjà où je vais, dans mon futur métier. Je m'inquiète, avec toutes les usines qui ferment, voilà. Et je me demande si on va pas tomber dans une société de service, et moi, je veux pas rendre service, je veux juste faire mon métier. Je vais faire travailler mes mains et voilà. Allez, ciao, vive les ouvriers.
J'habitais un village au nord de Metz, en lisière de la vallée des Anges. Toutes les nuits de ma fenêtre, au loin, que n'ai-je rêvé adolescent en voyant les rougeoiements des Assyries illuminant le ciel, allant jusqu'à masquer la lumière des étoiles. Puis, jeune travailleur, sous le règne giscardien, j'ai trouvé un petit boulot, servir de l'essence dans une station en bord de l'autoroute. Une journée, j'ai même fait le plein de la R16 de François Mitterrand, qui allait soutenir avec son équipe la lutte des sidérurgistes de Longwy. Le soir, aux informations télévisées, on a pu voir les manifestants qui envoyaient une déesse en feu sur les CRS. En 1984, sous le règne Mitterrand, j'étais à Metz aussi, quand les sidérurgistes en lutte ont encerclé la ville de fils d'acier et soudé les ports de la Banque de France. Il faudrait rappeler à la nation amnésique que depuis 30 ans, la droite, comme la gauche au pouvoir, sont les fossoyeurs de la sidérurgie française. Moi, je suis le fils d'un paysan menuisier sidérurgiste. La terre, le bois, le fer. Tout ce qui symbolise ma Lorraine, finalement. Voilà mes racines et j'en suis fier. Je voulais rendre hommage à tous les sidérurgistes qui ont nourri ma famille et ma région. C'était Daniel, toujours habitant en lisière de la vallée des Anges, à qui le rougeoiement du volcan manque tant.
Oui, bonsoir pour Monsieur Mermet. J'écoute de façon épisodique son émission et je suis un peu énervé par tout ce que j'entends. Grand Ange, etc., toute la région de Lorraine. Mais on oublie quand même, il faudrait peut-être le rappeler, que Sarkozy a fait 56% des voix à la présidentielle, qu'il y a 8 députés UMP sur 10 dans le département. On n'en parle jamais. Il faudrait quand même que ces gens-là, les Lorrains, regardent d'abord ce qu'ils ont fait et pleurent ensuite, parce qu'à écouter tous les jours les problèmes qu'il y a, on a l'impression que ça vient d'ailleurs. Mais ils ont voté, ils ont ce qu'ils méritent, et je crois que c'est un peu anormal d'entendre ça tous les jours. Merci.
Bonjour, monsieur Bouton. Voilà, je suis papa de 5 enfants et j'ai appris que vous alliez toucher 730 000 euros de retraite par an. Alors, ma femme et moi, on n'ose pas, mais vous pouvez nous prêter 5 000 euros, s'il vous plaît, monsieur Bouton. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, monsieur Bouton, soyez gentil, 730 000 euros. Ça vous fera plus que 720... 725 000 euros. Allez, hein, monsieur Bouton, on serait bien avec ça, nous. Juste 5 000. Allez, on compte sur vous, hein. Merci.
Allez, monsieur Bouton, hein, un beau geste à la veille, de, la veille du 1er mai. Vous envoyez le chèque à la base si j'y suis, puis on transmettra. Voilà, ce serait bien. Wow. Alors aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui, on est indignés. On est indignés à la base si j'y suis, toute l'équipe est indignée. Vous savez ce qu'on a appris? Oh, alors, c'est quand même incroyable, c'est qu'il y aurait des séquestrations de patrons. C'est-à-dire ces braves gens qui sont, on vient d'en parler, qui sont là en train de, qui passent leur jour et leur nuit à développer le pays, à travailler pour la croissance, à créer de la richesse et puis surtout à créer des emplois et à faire en sorte que leurs salariés soient les plus heureux et le plus souriants possible, eh bien, c'est terrible, l'ingratitude. C'est terrible. Eh bien, il y a des ouvriers, si on peut appeler ça comme ça, pour séquestrer ces bons patrons. Alors, les syndicats se sont mobilisés. Je parle des syndicats de patrons. Le MEDEF, la CGPME et l'UPA ont lancé un appel au respect de la légalité. Je les cite, la crise économique génère beaucoup de souffrances individuelles et collectives. Il ne s'agit nullement de les contester ou de les minimiser, mais quelle que soit la gravité des situations rencontrées, il ne peut être accepté que l'on déroge à la loi. Fin de citation, évidemment, évidemment. Donc, nous, vous savez ce qu'on est, le service public, la légalité, le rappel à l'ordre, et puis surtout, avant tout, l'information. L'information. Donc, on va vous informer sur des séquestrations et comment ça se passe chez Caterpillar. Vous savez, il y a des mouvements sociaux, beaucoup, en ce moment. On n'y peut rien. C'est la crise, ça vient d'Amérique. C'est un petit peu comme la grippe mexicaine. Vous voyez, avant la grippe mexicaine, ben, il y a eu la crise qui vient comme ça d'Amérique et qui est un très mauvais moment à passer. Mais en tous les cas, c'est très très mal de séquestrer ces braves patrons et cette heure va le démontrer. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Alors, des agriculteurs viennent de pénétrer dans un supermarché Leclerc pour dénoncer les marges de Michel Édouard, le fils du père qui filait la bouffe aux grévistes en 68 du côté de la région du Finistère. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement Fillon là pour mater ces gauchistes, agriculteurs d'extrême gauche, anarcho-révolutionnaires, hein, le mouvement paysan, attention là, hein, les agriculteurs aussi, ils sont d'extrême gauche, hein, Besancenot, faut qu'il arrête là, faut l'enfermer tout de suite là, avant qu'il crée une véritable jacquerie. Hein. Bon, allez, sur ce, moi je vais dire bonjour à Michel-Édouard Leclerc, du côté de Landerneau, lui faire comprendre que nous aussi on crève de faim et qu'il n'y a pas de raison que les agriculteurs ne soient pas poursuivis. Voilà, allez, ciao.
Allez, bonsoir. J'appelle pour vous dire qu'après, suite à la manifestation du 1er mai, à l'île de la Barthelasse, à Avignon, des partis politiques et des associations locales organisent des rencontres avec des débats, un meeting, des expos, des concerts le soir, un repas aussi à 12 euros pour continuer la journée dans un bon esprit. Venez à l'île de la Barthelasse à Avignon le 1er mai à partir de 14h jusqu'à 1h du matin. Bonne soirée, au revoir.
Les porcs sont malades, mais continuent à se gaver. Les porcs sont malades, mais continuent à se gaver. C'était pas une information sanitaire, c'est une information économique. Julien de Lausanne.
Après la manif du 1er mai, rendez-vous à Tréguin, dans le Finistère Sud, en Bretagne, pour la 3e édition de la Foire Alternative et Bio.
Au menu, pain, vin, pâté, avec Franck Lepage pour une conférence spectacle et un atelier de sculpture sur langue de bois.
Il y aura François Ruffin.
Serge Latouche. Bruno Bordenave.
Hervé Kempf. Thierry Gauthier. Toute l'équipe de l'association Paresse, la MJC de Tréguin.
Et vous?
Et moi.
Et moi, et moi, et moi.
Et moi, et moi. On a réussi. On a réussi. Merci.
Nous avons droit à 2 minutes d'oxygène par jour. Ce sont les messages des auditeurs, des gens simples, des gens moyens, comme vous et moi, qui nous les donne. dans le discours ambiant que l'on a, venant des officiels, des gens importants, ce sont ces deux petites minutes d'oxygène qui nous permettent de vivre.
Eh hey, les gars, on bloque les deux entrées. Un groupe là-bas et un groupe ici, s'il vous plaît.
Les autorités ont beaucoup parlé de violence, de séquestration.
Regardez les licenciements boursiers, est-ce que c'est pas violence? Est-ce que la direction n'est pas plus violente que nous?
Oh les gars, tous ensemble, tous ensemble, ouais.
Et comment ça s'est passé la séquestration
ce n'est pas une séquestration ce que nous avons fait.
Et se sont enfermés.
Surtout, ce qui a énervé tout le monde, c'est qu'il se cache. Voilà. Il s'était caché. Il s'était enfermé dans les bureaux, caché. Personne ne savait où ils étaient. Il y en a certains qui les ont trouvés. Voilà. Pourquoi se cacher? C'est ridicule.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. Ça branle dans le manche.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc là, à l'intérieur, il y a l'Assemblée Générale qui se tient entre les salariés. Vous, vous êtes délégué syndical?
Oui, je suis délégué syndical élu au CE CFDT.
CFDT?
Oui.
D'accord. Comment ça s'est pris la décision de séquestrer le patron alors? Enfin, les cadres.
Ça, c'est un comité de grève qui s'est du moins, plus ou moins installé, donc qui était en dehors de l'intersyndicale, hein, donc des salariés de Caterpillar qui faisaient pas forcément confiance à l'intersyndicale, mais qui étaient en dehors de l'intersyndicale et qui ont décidé justement de séquestrer 5 représentants de la direction. C'était le 31 mars.
Et vous, vous étiez en désaccord avec ça alors?
Bah, c'est sûr que nous, en tant qu'élus, on n'était pas forcément d'accord avec une séquestration. Mais bon, c'est les salariés qui ont décidé. Donc, voilà.
Et là, ce qui se joue derrière, c'est aussi la légitimité des syndicats par rapport au comité de grève ou...
Un peu, oui, si, bien entendu. Oui, oui forcément. Ouais.
Donc les syndicats sont amenés à...
Bah, les syndicats, aujourd'hui, en ce moment, on doit faire face à un petit groupe de 140 personnes, à peu près, même un peu moins, qui ont occupé Échirol. Donc les élus, forcément, on est obligé de les suivre. Donc
vous êtes tiré vers la gauche, quoi.
Ouais, ouais. On est tiré vers la gauche, ouais.
Ça fait du bien?
Bah non, mais des fois, on fait comme on peut. Et là, maintenant, on va se retrouver à la direction départementale du travail, avec la direction, à 15h. Donc si vous voulez venir, c'est là-bas. Vous savez où ça se trouve.
Et il va y avoir du monde qui va aller de l'autre côté aussi?
Il va y avoir du monde qui va aller de l'autre côté aussi, ouais. Ouais.
Alors, j'étouffe. J'ai le téléphone portable avec un numéro masqué qui contient des numéros préenregistrés, le numéro de la police, le numéro de la famille, le numéro de mon avocat. Là, j'ai mon petit change, ma petite chemise bien propre, ma petite cravate, j'ai ma petite trousse de toilette, le rasoir, le déodorant, enfin tout ce qu'il faut. Voilà. Si jamais ça m'arrive, eh ben je suis prêt. Voilà. J'ai mon kit de survie. Voilà. Eh ben vous savez, actuellement, amis modestes et géniaux, auditeurs et auditrices, il y a des tas de patrons dans ce pays qui ont le petit kit de survie. C'est Xavier Tedeschi qui propose ce kit de survie à ses clients. Eh oui, si ça vous arrive, comment faire face? Des experts ont livré des conseils pour éviter la séquestration ou la gérer si elle advient. Voilà, les patrons sont séquestrés dans notre pays. C'est absolument indigne. Et ça a indigné, vous avez vu, pas seulement le MEDEF et les syndicats patronaux, mais aussi bien le président de la République. Alors on a voulu en savoir plus. On a voulu en savoir plus, connaître qui sont ces séquestreurs, comment dit-on, séquestreurs, séquestrateurs, qui sont ces gens-là. C'est terroriste. Voilà pourquoi nous sommes à Grenoble, voilà pourquoi nous sommes avec les salariés de Caterpillar, mais on est dans un épisode assez intéressant et même tout à fait passionnant, entre un comité de grève qui s'est constitué parmi les salariés menacés de licenciement et les syndicats. Les syndicats, y a une tension entre les deux. Ça arrive très très souvent, ce genre de choses, c'est même presque une tradition dans les luttes sociales en France et dans le monde. Les congés payés en 1936 ont été obtenus de cette façon par la base qui débordait et qui poussait les syndicats à obtenir et revendiquer un certain nombre de choses. Il y a plein d'exemples dans l'histoire des luttes qui se sont produites de cette façon. Et bien c'est ce qui se passe au moment où nous arrivons avec François Ruffin à Grenoble, chez Caterpillar, et nous allons en route vers la direction départementale du travail. On est en pleine tension, on est en plein les problèmes essentiels que ce pays traverse, cette exaspération à deux doigts de la révolte. Ça branle dans le manche, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Est venu de réclamer l'autonomie, de ne plus être dépendant d'aucun parti, de laisser le champ libre à l'autogestion. C'est leur présence que nous remettons en question, au signe d'un fait comme vendetta, mais aussi comme victoire. Le bourgeois crie au désespoir quand il est égorgé à la lumière de notre grand soir. C'est la grande foire. Le moment est venu de s'emparer des richesses qu'ils ont accaparées. Désemparés, ils crient à l'aide, ils sont désarmés à ce qui paraît. Après tant d'années de souffrance, on goûte à la liqueur de la sédition et soulage notre soif de vengeance. On a fait de nos quartiers des places fortes. 3000 de 12 égale problème réglé à la manière forte. Pas besoin d'escorte quand tes élites ont esquinte. Une étoile rouge et un kéfier palestinien, voilà notre empreinte. J'espère que t'as reçu 5 sur 5. Peu de solutions à part la révolution. Trêve de discussion, sors les munitions. Les mots doivent devenir des actions pour faire payer leurs exactions. Le moment est venu. Peu de solutions à part la révolution. Trêve de discussion, sors les munitions. Les mots doivent devenir des actions pour faire payer leurs exactions. Le moment est venu.
Maître Niel, on se trouve là dans votre bureau, près de la Défense, pont de Neuilly, au sein du cabinet FIDAL, qui est un immense cabinet d'avocats. Vous conseillez notamment les entreprises ou...
Je conseille exclusivement les entreprises et les dirigeants d'entreprise, oui. On est là pour les conseiller en amont, qui peuvent être par exemple des projets de restructuration entraînant des licenciements économiques, et pour les assister durant tout le processus et éventuellement eh bien les aider et les conseiller si jamais un contentieux se développe ou des différends apparaissent à l'occasion d'une telle opération.
Et vous avez rédigé un petit tableau avec les 10 conseils anti-séquestration, 10 comme les 10 commandements finalement. Quel est le premier commandement ?
Le premier, c'est d'estimer le risque de mutinerie contre la direction, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans une configuration, par exemple, d'un groupe international qui gagne de l'argent où la décision a été prise de l'étranger et vous n'avez aucune possibilité de négocier quoi que ce soit. Là, on peut dire que tous les clignotants sont au rouge et qu'effectivement, vous allez vous engager dans une procédure où les risques d'affrontement seront plus élevés que ceux sur le dialogue.
La délégation intersyndicale est arrivée en TGV depuis Grenoble vers 13h
TF1.
Pour reprendre les négociations avec la direction européenne de Caterpillar.
19 avril 2009.
Et ce, à l'initiative d'un représentant du ministère de l'Économie. Mais pour les syndicats, deux préalables à la reprise du dialogue, que la direction lève les sanctions contre les grévistes et que le nombre de licenciements annoncés diminue. Après avoir séquestré leurs dirigeants fin mars, puis bloqué l'entrée des usines d'Échirolles et de Grenoble la semaine dernière, les salariés avaient obtenu que la direction revoie son plan de réorganisation. Mais en contrepartie, celle-ci exigeait un aménagement du temps de travail et une convention de chômage partiel sur 4 ans. Ce soir, la réunion n'était toujours pas finie et on connaîtra donc demain matin la réaction des 2000 salariés qui doivent reprendre le travail après justement une période de chômage partiel.
Allez les gars, allez vite-le. Allez,
voilà, allez, voilà, bon. Non, voilà, vite-le, on va les faire. Vous auriez une bagnole pour me conduire de l'autre côté?
Ouais, mon collègue.
Ouais, j'aurais une petite place.
Ouais, on y va.
Attends, je vais avancer.
Ouais, vas-y, avance un petit peu, ça te dérange pas. Merci, hein.
De rien. Putain, je la bloque, moi, je la bloque. Ah, c'est bon, ah, les collègues.
Attention, il y a un mec derrière.
J'ai vu.
Bah, grâce de lui, c'est un délégué, pour un débarras.
Ah, là, c'est un délégué à moi.
Attends, je vais leur mettre. Oh, on va t'écraser maintenant. On va t'écraser maintenant.
J'aime bien l'emmener.
Oh, Péan,
Seigneur! Je tourne à droite là.
Ouais.
Éternelle histoire, la base et les délégués. Oui, les délégués débordés par la base. Un comité de grève s'est constitué chez Caterpillar à Grenoble qui veut pousser les syndicats à être plus radicaux, à ne pas reculer, à être plus durs dans les négociations. C'est une configuration tout à fait classique. Vous avez entendu hein, ce qui se passe chez Maître Sylvain Niel, avocat du cabinet Fidal, pour les conseils aux patrons qui risquent d'être séquestrés. Alors, il y a 10 conseils, on va les énumérer tout au long de cette émission. Vous en avez entendu un premier. Les séquestrations, c'est pas une nouveauté. Hein. Il y a toute une histoire de séquestrations. On se souvient de Sud Aviation, par exemple, en 1970, et LIP, évidemment, un peu plus tard. En 2000, les ouvriers de Celatex, dans les Ardennes, qui retiennent leurs dirigeants. En 2003, les ouvriers de Diou, à Longwy, vous vous souvenez? Et puis, en 2003, les Mosselais d'Elem, dans le Nord, qui occupent leur usine et prennent possession du trésor de guerre. Enfin, etc. Il y a des histoires un petit peu partout, comme celle-ci. Les ouvriers de BRS à Devesay, dans le Doubs, en février 2008, qui séquestrent leur patron. Donc c'est une vieille coutume. Alors il arrive comme en Inde, par exemple, où ça aille beaucoup plus loin, on les brûle un petit peu les patrons, mais on n'est pas en Inde. Soyez sans inquiétude, et puis n'importe comment, il y a des gens comme l'avocat Sylvain Niel, qui est à votre service pour vous soutenir dans ces moments délicats. Là, donc, on est avec le comité de grève. On va à la direction départementale du travail, et c'est pas forcément triste, la lutte n'est pas forcément triste.
Et alors comment ça se fait que vous avez créé un comité de grève à côté des syndicats?
Parce qu'on n'avait pas tellement confiance aux délégués. Voilà le problème qu'il y a. Parce qu'ils sont trop gentils, nos délégués, voilà, ils sont pas assez fermes. Et la direction qu'on a vraiment, c'est des spécialistes. Ils cherchent à créer le conflit, parce que ça fait 5 semaines qu'on fait la grève, ça fait 3 mois qu'on perd de salaire, on a les problèmes à la maison, plus de problèmes à Qatar. Alors ils ne veulent pas négocier vraiment rien. C'est des durs, c'est des Hitler.
Mais alors comment vous avez fait pour le constituer au départ, le comité de grève?
Assez vite fait, on a commencé déjà, on avait normalement devait commencer un micro de si j'ai une bonne mémoire. Et nous on a commencé 2 jours avant que l'intersyndical nous donne la grève à partir du mercredi. C'est-à-dire nous on a commencé un lundi. Bouche à l'oreille, et les gars se sont trouvés devant la porte avec des merguez, etc.
Et comment ça s'est passé, la séquestration?
Ce n'est pas une séquestration, ce que nous avons fait.
Et se sont enfermés.
Les patrons avaient tout le loisir de sortir. C'est eux qui se sont enfermés dans les bureaux.
C'est eux qui avaient la clé à l'intérieur de leur bureau.
Mais en aucun cas, c'est une séquestration et nous ne sommes pas des voyous. Nous défendons nos droits et notre emploi, c'est tout. 6 jours de semaine, je me rappelle très bien, 6 jours de semaine, négociation, ils ne veulent pas négocier, ils nous emmerdent demain, après-demain, toujours la même chanson. Mais on est rentrés. Comme ils le font partout dans toute la France. Hein. On est rentré pour essayer de négocier nous-mêmes, de choisir les gars à négocier, ils n'ont pas voulu.
C'est-à-dire que là, c'était les syndicats qui négociaient avec la direction, et à un moment, vous avez dit, nous, on est le comité de grève,
on veut négocier
directement avec la direction.
Voilà.
Ou bien faire partie de la négociation.
Mets-toi juste là derrière.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a une certaine satisfaction où on ressent une certaine force collective où d'habitude c'est toujours eux qui décident de tout et pour une fois bah, c'est nous qui décidons de quelque chose?
Ah ouais, pour une fois on était, la vérité, on était content.
C'est une satisfaction.
On avait une satisfaction, on avait la force et on a obtenu pas mal d'ouvriers, beaucoup de monde avec nous. Hein. On était presque le maximum. Ils ont passé des heures. Le jour où on les a sortis, hein, on les a laissés sortir, il y avait un monde fou.
Et vous les avez gardés combien de temps?
7h du matin à 8h, on les a lâchés à 10h, 24, 26h à peu près.
Ils ont bien été nourris, ils ont été nourris, ils ont bu à leur guise, on les a pas embêtés de toute la nuit, ils ont pu dormir comme ils voulaient, sur la moquette, ouais, ou sur la table, sur une chaise. Franchement, ils étaient bien logés. On était là, on les gardait aussi. S'il y avait une personne qui pouvait être fatiguée, on pouvait appeler l'infirmière en disant voilà, vous pouvez venir. Ils ont vraiment été bien traités. Pas comme nous, on a été maltraités par rapport à eux. Eux, nous, on les a bien traités. Voilà la différence entre les ouvriers et les patrons.
Là, on se garde devant la direction du travail et de l'emploi. Et donc, toi aussi, tu as ressenti une satisfaction que pour une fois, le rapport de force s'inversait.
Bien sûr, oui, parce que j'ai pu discuter quand même avec mon patron, lui dire ce que je pensais de cette situation-là. J'ai parlé au nom des ouvriers, comme quoi on était quand même des pères de famille, qu'on avait beaucoup à perdre dans cette histoire-là. Et bon, vu son regard, moi, personnellement, moi, c'est mon avis personnel, M. Politnik, il a un cœur. Par rapport aux autres, il a un cœur, ouais.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu as dit, bah voilà, on a...
Il m'a pas répondu, c'est son regard qui m'a fait parler. C'est son regard.
Finalement, il vous comprend, il n'a pas le choix, sa direction lui a donné les consignes.
Oui, en fait, par rapport à ce qu'il a au-dessus, il ne peut rien faire. Il est le directeur, mais il peut pas agir à sa guise.
Donc c'est au-dessus qu'il faudrait sequestrer.
C'est au-dessus qu'il faut taper, c'est les Américains. C'est les Américains qui ont la clé. Hein. C'est pas eux, hein. Ils ont rien, eux. Hein.
Boss snapping. Les Américains appellent ça le boss snapping, comme il y a le kidnapping. Boss snapping, ça veut dire, voilà, séquestrer un patron. C'est mal, hein. Attends, vous soulignez bien ça. Là-bas, si j'y suis, a dit c'est mal. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, c'est mal, mais il faut quand même se prémunir contre ça. Et pour cela, il y a le cabinet Fidal qui vous conseille.
Sixième commandement. Le sixième commandement, ça se durcit, pour ainsi dire.
Voilà, on va passer de la phase préventive à, malheureusement, on n'a pas pu réussir par la prévention et on arrive au moment où le personnel, souvent, alors que les syndicats s'y opposent, en général, eh bien, décide d'une séquestration. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut que les gens qui sont séquestrés n'oublient pas que ceux qui sont les meneurs commettent un délit. C'est un délit qui est puni par le code pénal, par une peine qui va de 5 ans à 20 ans d'emprisonnement selon le temps de retenue.
Donc ça, il faut que les dirigeants rappellent aux gens qui les retiennent qu'ils risquent éventuellement des peines de prison, ils risquent des amendes.
Tout à fait. Et regardez l'article 224.1 du code pénal, traite bien de l'enlèvement et de la séquestration. Donc, la séquestration, c'est le terme juridique qu'il convient d'utiliser. Et rappeler aux gens, attendez, si vous nous séquestrez, vous êtes en train de commettre une infraction qui est un délit. Donc, sachez-le, ayez conscience de ça. Souvent, les gens l'ignorent. Or, la grève est licite, protégée par la Constitution. La séquestration est un délit et fait, à ce moment-là, du salarié qui est le séquestrateur, un criminel.
Là, le salarié glisse sans le savoir. Et le rôle des dirigeants, c'est de leur rappeler... Vous étiez un salarié, attention, vous franchissez la ligne jaune, vous devenez un criminel.
Absolument, on franchit la ligne rouge.
Oh, on va t'écraser maintenant! On va t'écraser maintenant!
Voilà, là on arrive devant la direction départementale parce qu'ils étaient à Paris. Parce qu'ils étaient à Paris,
ils ont rien négocié.
Ils n'ont rien négocié à Paris, on s'est fait avoir dès le début, ça fait 6 semaines. Et là maintenant. Ils veulent que renégocier là, et nous on ne veut pas, on va tout bloquer maintenant. Maintenant, ce n'est pas la direction qui décide, ce n'est pas les délégués qui décident, c'est les ouvriers.
Donc, chaque fois, nous avons fait des concessions pour rien du tout. Chaque fois, on nous a dit, bon, vous faites des concessions, vous libérez le site des Chirols, on va négocier. Et résultat des courses, on est toujours au même point. Donc, faut arrêter là, faut arrêter quoi. Donc là, finalement, vous allez vous opposer aux délégués qui vont négocier la direction.
Il n'y a plus de négociation maintenant. Ils ne vont pas négocier aujourd'hui. Interdit la négociation. On arrête là. Nous, on va prendre les choses en main.
On va aller voir ça. Merci. Hein. Pendant qu'il y en a un qui pisse sous le sapin, les autres courent devant la direction départementale. En fait, empêcher les délégués syndicaux de négocier.
Maintenant, les collègues, on ne veut plus que négocier là.
Ah, mais faut pas.
Ah, mais là,
les négociations.
Hein ? Ouais, mais je veux leur dire. Je veux leur. Vous me donnez la parole. Vous me donnez la parole. Donnez-moi une petite responsabilité. Je te le jure. Je vous le jure qu'on va les faire baver.
Voilà.
Maintenant, discussion. 4 heures.
nous qu'on décide, Jamel, c'est pas eux, c'est nous.
C'est nous qu'on décide, c'est les ouvriers.
Parce que eux, jusqu'à maintenant...
C'est ni les délégués, ni les délégués, ni la direction, ni préfet, ni maire. C'est nous.
Non, tu vas me dégager un pétard de sous le talon. Les quatre qui sont là-haut, c'est les quatre qui se sont retrouvés, pas séquestrés, mais qui se sont retrouvés retenus à l'usine.
Oui.
Bon, aujourd'hui, j'en ai honte. Je vous le dis honnêtement, j'ai honte d'avoir retenu, si on peut dire ça. Mais j'ai honte, parce que bon, voilà, c'est quand même lamentable d'en arriver là pour se faire entendre. Voilà. Donc, non, j'en suis pas fier. Loin de là. Comme je dis, j'ai des enfants à côté, j'ai une éducation à leur apporter. Et aujourd'hui, non, c'est pas ça que j'ai envie de donner comme image à mes enfants. Non.
Eh les gars, on bloque les deux entrées. Je veux un groupe là-bas et un groupe ici, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui rentre. On ne veut pas des loups là-haut.
Le comité de grève jette des œufs sur les élus syndicaux.
La discussion, c'est la cata. C'est pas négocié. C'est directement à Caterpillar. Vous avez compris, les élus. On vous avertit. Vous êtes en danger maintenant. On vous avertit. C'est à Caterpillar. Plus de discussion. À la tête. Marc, on vous avertit. La négociation maintenant à Caterpillar avec la direction. Oh, les gars. Tous ensemble.
Alors là, c'est une image vraiment incroyable. Les syndicats qui étaient venus pour négocier avec la direction de Caterpillar à la DDTE se sont vus accueillir par 200 salariés avec des œufs. Donc ce sont les salariés qui ont renvoyé les syndicats. Une image assez étonnante, d'autant plus que c'est la Sono. C'est la Sono de la CGT Isère qui a servi aux responsables du comité de grève pour repousser les délégués syndicaux vers leur voiture avec des pétards et quelques...
Et
excusez-moi, c'est qui Gomez et Dejou?
C'est des délégués.
On n'en veut plus. Vous hurlez contre eux parce qu'ils sont rentrés.
Ouais.
Aujourd'hui, on vient d'avoir la conclusion de la négociation.
Zéro.
Il y a eu quelques avancées significatives.
Conflit en direct entre le délégué syndical et le responsable et l'un des membres du comité de grève, puisque le délégué syndical parle d'avancées significatives. Aussitôt, son micro est repris devant les CRS, devant la direction départementale de l'emploi, pour dire il n'y a pas d'avancées significatives, c'est du bidon.
Vous allez payer.
Vous allez payer.
Ensemble.
septième commandement ?
Tous les gens qui vont être là et qui vont organiser cette prise d'otage sont passibles de poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Et notamment s'il s'agit de représentants du personnel, parce que la justice sur ce plan-là estime que les représentants du personnel doivent être des modérateurs dans un conflit de cette sorte. Donc quand ils sont les meneurs, là, ils commettent une faute particulièrement grave.
Eh oui, mais on se retrouve toujours avec face à face la légalité et la légitimité et la violence symbolique contre la violence réelle subie par ces salariés. La colère sociale monte dans de très nombreux pays et elle est populaire. Cette violence est populaire. Ces séquestrations sont considérées comme acceptables par la majorité de l'opinion en France. Presque 50% des Français approuvent même ces séquestrations. Ce sont des sondages, certainement, avec toutes les réserves qu'il faut, d'usage qu'il faut faire, mais c'est quand même des indicateurs. On avait vu ça, souvenez-vous, en Grèce, par exemple, à Athènes, où la population approuvait les faits de violence qui étaient évidemment beaucoup plus violents que ce que nous évoquons aujourd'hui à Grenoble, avec cette pression de ce comité de grève, c'est-à-dire de la base sur les élus syndicaux. Il faut bien comprendre ce jeu. C'est pas une délégitimation des élus syndicaux. C'est une pression sur eux pour les négociations, pour qu'ils puissent dire lors des négociations, vous voyez bien, on a notre base qui est radicale et qui nous rend impossible de reculer face à ce qui est proposé et qui est inacceptable. On en est là, ça en dit long sur la situation générale, sur cette colère très profonde qui fermente et qui finit par exploser ça et là dans notre bel hexagone, et pas seulement dans notre bel hexagone.
Je suis rentré à 17 ans dans cette entreprise. Quand je suis rentré, que j'avais 17 ans et demi, ils m'ont dit tu rentres dans une grande famille, on va s'occuper de toi, on va te protéger jusqu'à ta retraite. Et puis là, je vois qu'ils me lâchent. Là, c'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent, carrément. Voilà. Parce qu'ils me lâchent à 50 ans, alors que moi, à 20 ans ou 25 ans, j'aurais pu faire un autre boulot. J'aurais pu trouver une autre voie, quelque chose d'autre que la ferraille. À l'époque, quand j'avais 17 ans, je voulais être coiffeur, moi. Coiffeur pour dames, je voulais. Caterpillar m'a présenté les fiches de paye avec le boni et tout. Bon, c'était de l'argent qu'on gagnait bien, et en travaillant dur, mais qu'on gagnait bien. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit, bon ben, t'as 50 ans, c'est fini, maintenant tu dégages. Tu dégages, on ne te veut plus, voilà. C'est comme ça que je le prends, donc je leur en veux, par rapport à l'éthique Caterpillar. Pour moi, l'éthique Caterpillar, c'était monstrueuse. Parce que Caterpillar, c'est quoi? C'est le haut de gamme des tracteurs, c'est la Mercedes des tracteurs.
Dans mon temps, d'accord, avant, c'était le seul en France.
Moi, j'ai conditionné toute ma vie autour de Caterpillar. J'ai travaillé les heures supplémentaires, les horaires, la flexibilité, dans tous les domaines. Et puis maintenant, bah, j'arrive à 50 ans, je fais quoi? C'est une famille qui me lâche complètement. J'ai accepté tous les horaires qu'on m'a demandé. J'étais d'une flexibilité mais hallucinante. Par exemple, c'est-à-dire finir le samedi matin et rattaquer le samedi soir pour dépanner.
Vous
des sites.
Deux tournées dans la même journée?
Dans la même journée. Ça, c'était des arrangements entre moi et mes patrons. Maintenant, la flexibilité, ils ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire que sur un coup de fil, je venais travailler à n'importe quel moment. Moi,
vous avez eu confiance en eux, finalement. Vous étiez un bon élève Caterpillar.
Un bon élève Caterpillar.
Flexible, polyvalent.
Et je travaille la nuit. Je travaille la nuit depuis 20 ans, que je ne peux plus maintenant, j'arrive plus. Mais on ne me changera pas d'horaire, on me laissera crever. J'en suis arrivé que j'arrive plus à dormir quand je rentre chez moi. C'est-à-dire que je travaille de 23h à 7h du matin. Quand je rentre chez moi, à 7h, je dors de 7h à 10h. Et après, je suis réveillé, je ne peux plus dormir. Moi, je vous dis franchement, j'ai un salaire qui est confortable. Vous voulez un chiffre?
Ouais.
2004. C'est confortable. À la limite, si je gagne moins avec des horaires mieux aménagés pour moi, pour ma santé, je veux bien gagner 600 euros de moins, mais travailler la journée et dormir la nuit, ben non, ça ne veut pas.
Vous avez des lunettes en verre fumé? C'est parce que vous êtes fatigué de la lumière du jour à force de travailler de nuit.
La nuit, ça tue. Je vous parle pas de mes poignets, je vous parle pas du coude. J'ai pas ça pour rien.
Ça, c'est des gants, c'est des mitaines. Je croyais que vous étiez motard avec ça.
J'ai deux métacarpiens qui sont cassés ici. Et donc le fait de porter des gants avec du gel ici, et ben, ça me maintient les métacarpiens et ça m'empêche l'opération dans pas longtemps. J'ai été usé dans cette entreprise. Usé à petit feu. Hein ? Je m'en plains pas. Je m'en plains pas. Et ils m'ont permis de faire vivre mes trois enfants, de les élever dans de bonnes conditions. Bon, ben alors, maintenant, c'est moi, quoi. Maintenant, c'est moi qui reste tout seul. Je vais pas aller pleurer envers mes enfants pour aller dormir chez eux. Il faut que je me débrouille. Et je vais me débrouiller comment ? Au chômage, au RMI, à la casse. Ils me mettent à la casse. Je vous dis tout ça. Et ça se trouve, je suis même pas licencié. Et si je suis pas licencié, ça va être pire. Parce qu'à l'intérieur, ça va être encore pire. Il va falloir faire le travail des autres. Et ça s'appelle l'aménagement du temps de travail. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se taper 40 heures, 50 heures.
Il n'y a personne qui rentre. On ne peut pas être là-haut.
Le huitième commandement,
c'est de dire que tout ce que la direction va concéder alors qu'ils sont séquestrés n'a aucune valeur. Tous les engagements, toutes les promesses, tous les accords qui seront pris par les séquestrés sont annulables par le juge. Donc, je crois que à partir du moment où on est séquestré, il faut tout signer et tout accepter. Il ne faut pas rentrer dans la logique de dire « je ne négocierai pas parce que je suis séquestré ». Il faut dire « écoutez, pas de souci, je signe immédiatement l'accord sur l'augmentation des salaires, l'accord sur le maintien du site, l'accord sur la disparition des licenciements, il n'y a aucun souci ». Pour que les gens prennent conscience qu'à ce moment-là, il n'y a plus de consentement librement donné, puisque le consentement est altéré par la violence qu'est la séquestration.
Donc là, il faut tout signer. On va danser la carmagnole ensuite, les ouvriers vont danser la carmagnole, et après, on est libre.
À une époque, on avait des PDG à Caterpillar. Il était là, c'était un PDG. Donc lui, à chaque fois, il s'investissait dans les conflits, dans tous les conflits sociaux, il s'investissait, il était en face de nous. Je suis en face pour parler. Maintenant, on va négocier. Si je ne veux rien donner, je ne donnerai rien, mais je vous le dirai en face. Alors que maintenant, on a des dirigeants qui se cachent, qui fuient. Ils fuient leurs responsabilités. Et maintenant, le directeur, ben, on le prend. Aujourd'hui, il est là. Dans 6 mois, il est aux États-Unis, il est en Belgique, il est à Peoria, il est n'importe où. Ils peuvent le balader comme ils veulent. Donc c'est quelqu'un qui peut se permettre de licencier comme là. Il voulait licencier 733 personnes. Lui, ça ne le dérangeait pas. D'ailleurs, on le voit bien à la télé que ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Il parle de ça calmement. Il n'est pas catastrophé. Nous, quand on avait un PDG, ben, dès qu'il y avait un souci, il était là sur le terrain et il nous affrontait en face. Il n'avait pas peur. Voilà. Et maintenant, Polytechnic, ben, le jour où il aura bien fait le nettoyage, ils vont le mettre ailleurs pour recommencer la même chose.
Et vous étiez là le jour où il y a eu, où disons les dirigeants ont été retenus ?
Ouais. Surtout, ce qui a énervé tout le monde, c'est qu'ils se cachent. Ils s'étaient cachés. Ils s'étaient enfermés dans les bureaux, cachés. Personne ne savait où ils étaient. Il y en a certains qui les ont trouvés. Ils ont trouvé où ils se cachaient. Et, ben, pourquoi se cacher ? C'est ridicule. J'étais pas là, j'ai pas voulu assister à ça parce que j'avais honte d'eux, quoi.
Honte de vos camarades ?
Non, de mes patrons. À l'heure actuelle, oui, j'ai honte de mes patrons. J'ai honte d'eux. Ça me fait chier d'être dirigé par des gens pareils, quoi.
Vous dites à vos patrons, retrouvez votre dignité.
Voilà. Il faut qu'ils retrouvent leur dignité, mais ils la retrouveront pas. Attends, ils sont pas là. On les voit plus ici. Ils sont interdits de site ici.
Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de la. Oui, on les flingue, citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on abat. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, est dur et père et mère pour une poignée de billets verts.
Neuvième commandement.
Alors, neuvième commandement, c'est lié à la séquestration, à ce caractère criminel qu'est la prise d'otage, c'est identifier les meneurs. C'est-à-dire que la difficulté, si vous voulez, dans toutes ces séquestrations, c'est que vous avez une foule de gens, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des salariés de l'entreprise, qui sont présents, participent, et vous avez donc d'un côté des sympathisants, vous avez des grévistes, vous avez des syndicalistes, vous avez des représentants du personnel. Identifier parmi tous ces gens-là qui est le meneur, c'est-à-dire qui organise intentionnellement la prise d'otage.
Parce que vous avez vu déjà des cas où il y a toute une faune qui se rassemble et qui n'a rien à voir avec l'entreprise.
Bien sûr, ça existe. La séquestration qui commence à être un geste désespéré de violence attire un certain nombre de gens qui peuvent saisir l'opportunité de ce terrain fertile au conflit social.
C'est une séquestration comme ça, un boss-napping, comme disent les Anglais, le boss-napping attire un peu tous les gauchistes du coin qui viennent se défouler sur...
Oui, ça peut être le cas.
Eat a banker, mangez un banquier. Si la petite chanson là vous a un petit peu accroché l'oreille, sachez que à Londres, vers la City, on a trouvé des gars en train de brailler ça. Mangez un banquier. On trouve l'humour de Swift, par exemple, qui n'était pas anglais. Pas du tout. Eh oui, et tension sociale grandissante chez nous, et pas seulement chez nous. Là, on est à 14. Puis là, ça s'est passé dans d'autres endroits, à Sony, vous vous souvenez, dans les Landes, et chez 3M, à la FNAC. Monsieur Pinault, vous vous souvenez cet épisode quand il était coincé dans son taxi, qu'il est resté enfermé dans son taxi, etc. Ça reste, pour l'instant, tout ça très, très symbolique. Mais voyons un petit peu où on en est dans, dans ce conflit à Caterpillar à Grenoble.
À l'intérieur, le débat continue. Les quelques médias qui restent sont dehors et on observe ça par la fenêtre. Les salariés, il y a une partie des salariés qui sont très en colère après l'intersyndicale qui a en vérité signé un protocole de fin de conflit hier à Bercy. Et l'avocat vient de leur dire qu'ils étaient liés en gros par ce protocole de fin de conflit. Il s'est approché de la fenêtre, il a parlé à l'un de ses camarades, et on a pu entendre en off ce qu'il disait. Et ce qu'il disait, c'est je leur ai dit hier de ne pas redescendre de Paris avec ça. Je leur ai dit qu'ils s'étaient foutus dedans avec ça, qu'il ne fallait pas rentrer de Paris avec ça. Et donc là, ce qu'on observe de l'autre côté de la fenêtre, c'est un face-à-face entre l'intersyndicale et les salariés mobilisés, l'intersyndicale qui a signé le protocole de fin de conflit, et de l'autre côté, les salariés qui en veulent au syndicat d'avoir signé ce protocole sans l'accord de l'Assemblée Générale. Maître Jeannot, je vous ai entendu là dire qu'on est dans la merde.
Oui, parce que si vous voulez, je vais être excessif. J'ai l'impression qu'on a un petit peu gardé à vue pendant 9 heures des représentants. Alors d'ailleurs,
je veux dire que les syndicats hier ont été séquestrés. Hier à Bercy.
Ben, regardez quand même comment ça s'est passé. Très franchement, c'est une réunion qui s'est faite sous la houlette du directeur de cabinet de Madame Lagarde avec le préfet. On arrive finalement à une mouture qui est pratiquement celle que essaie d'imposer Caterpillar depuis quelques mois maintenant. On arrive au bout de 9 heures quand même à extorquer des signatures, parce que j'ai beau lire le protocole, je vois pas très bien où sont les contreparties Caterpillar. Et puis ce matin, on fait des effets d'annonce en disant que il y a des assurances sur la pérennité du site. Je peux vous assurer qu'il n'y en a pas. Des avances sur l'enveloppe du plan social, il n'y en a pas beaucoup non plus, puisque de toute façon, on est toujours au même chiffre. Et quant à la suppression d'emplois, c'est exactement la même chose.
Pourquoi ça a été signé alors, ce protocole? Comment ça s'est passé? Pourquoi à la fin, vous avez signé ce document?
C'était un peu une garde à vue. Et donc, on s'est retrouvé 9 heures coincés là-bas entre une salle et une cour. On a clamé nos propositions, nos réclamations à la direction. Et bon, derrière, il y a des dizaines et des dizaines de médias et des caméras, donc on ne pouvait pas sortir. On était un peu coincés. Non,
moi, ce qui me sidère le plus dans toute cette histoire, c'est que la direction, elle fasse un protocole d'accord et qu'elle nous demande à nous, salariés, de nous prononcer si on est d'accord pour 600 ou 733 licenciements. Mais moi, je suis d'accord sur aucun licenciement. On n'a pas à voter ou à prendre des décisions concernant 600 licenciements. C'est pas notre ressort, ça. Moi, ça me sidère, ça.
C'est-à-dire, non seulement on veut vous assommer, mais avant de vous assommer, on vous demande est-ce que vous êtes d'accord pour être assommé.
Oui, de cautionner. On nous demande de cautionner ça, mais pas du tout. Nous, on ne cautionne rien du tout. On cautionne zéro licenciement.
En plus, Caterpillar, c'est une entreprise qui produit des engins de travaux publics. On en a besoin. C'est pas des productions inutiles. Il manque des logements dans ce pays. Il manque au moins 1 million de logements. Il faut rénover des routes, des équipements publics. On en a besoin de ces bulldozers, de ces pelles, de ces tracteurs. Cette usine, elle devrait tourner à plein, crise ou pas crise. Il y a de l'argent qui a été accumulé. Hein, les profits de Caterpillar, ils sont colossaux. Les profits des années précédentes, ils sont encore plus importants. Ils sont allés où, ces profits?
Combien?
3,5 milliards de dollars cette année, et le dividende a été augmenté. Ils viennent d'annoncer, en plein mouvement social, ils n'ont pas hésité à annoncer une hausse de 17% du dividende par rapport au dividende de la même période de l'an passé.
Non mais, en plus, les commandes ne sont pas arrêtées du jour au lendemain. On nous parle de pérennité. Mais la pérennité, pour commencer, il faudrait arrêter qu'ils refusent les commandes et qu'ils nous le donnent, le boulot. Il y a eu des commandes qui ont été passées et le boulot, il a été donné aux Brésiliens, il a été donné aux Chinois. Mais le boulot, il ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. L'an dernier, on faisait 8000 machines. On ne me fera pas croire que du jour au lendemain, on se retrouve avec zéro machine à faire. Ce n'est pas possible.
Finalement, sous couvert de la crise, c'est une délocalisation déguisée.
Mais c'est complètement ça. C'est une délocalisation déguisée. Et ça, c'est depuis le début. Et ça, c'est ce qui a fait ressortir aussi également le rapport Secapi. Que ce coup-là, il le préparait depuis 2007. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils préparent ça. Et maintenant, ils viennent nous mettre, ouais, ben c'est la crise, on n'a plus de commandes. Mais il faut arrêter les conneries. Hein.
Et au moment où les dirigeants ils ont été retenus, vous étiez là?
Oui.
Les mamans venaient amener à manger à leur mari, les enfants venaient voir où le papa travaille, il y a une chorale qui reprenait les chants révolutionnaires. Les autorités ont beaucoup parlé de violence, de séquestration, mais qu'est-ce que c'est par rapport à une nuit retenue pour un cadre? Qu'est-ce que c'est à côté des conditions de travail des salariés dans cette usine?
Regardez les licenciements boursiers, est-ce que c'est pas violence? Est-ce que la direction n'est pas plus violente que nous? Moi j'ai l'impression que c'est eux qui sont hyper violents.
10e et dernier commandement.
Dès l'instant qu'une séquestration se met en place, la première chose qu'il faut faire, c'est demander sa libération pour faire acter qu'on est bien séquestré, qu'on est bien retenu, que la liberté est bien entravée.
Mais qui acte là? Parce qu'il faut faire venir un huissier pour acter.
Alors, moi ce que je propose, c'est que les gens qui sont dans ces phases de négociations difficiles soient plusieurs et puissent à ce moment-là faire des témoignages croisés, c'est-à-dire que l'un porte témoignage de ce que l'autre a vécu et ainsi de suite.
C'est-à-dire, je suis patron, je suis séquestré, je viens demander officiellement « libérez-moi » devant des témoins, on ne me libère pas, et à ce moment-là, c'est bien la preuve que je suis retenu.
Absolument.
Oh, on va t'écraser maintenant
C'est C'était un reportage de François Ruffin. Merci à tous. Merci Gérard, Nicolas, Jamel, Hervé, leurs camarades. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et là aussi, des espaces sont réservés à vos commentaires, analyses, coups de gueule et coups de cœur. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Pierrick Monsigny. C'est Coy Nguyen et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attend vos messages au répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.